Bonjour les amis, je vois cette première tableau ronde pour aujourd'hui on va parler de traduction avec Mélène Fassi et Patrick. Alors on va voir Patrick si vous êtes, mais malheureusement il n'a pas pu être là, c'est pas mal. Et donc on va commencer par vous présenter Patrick Sounet qui est traducteur,
il est malade.
Donc Patrick Sounet qui est traducteur de Tronflop. De Orson Scott Card, mais aussi de Terry Pratchett.
Oui, enfin, surtout de Terry Pratchett, parce que de Michael Moorcock, je me fais 4, et de... Oui, oui, et de... Quatre, j'en ai fait six. Et de Pratchett, j'en ai fait au moins 50. Voilà. Donc c'est surtout Pratchett. C'est surtout Pratchett.
Et Hélène, tu es traductrice de Brandon Sanderson, Louis McMaster Bujold, Rangers, Hobstead, Wright et les deux
hommes. Larcel. Donc ça, t'es derrière.
En fait, tu me tiens bien droit.
En te tournant davantage par là.
En me tournant dans la marche. Désolé pour les deux.
Qu'est-ce
qu'on disait sur ce film ? Certains plus que d'autres, donc ils n'aiment pas, c'est juste quelques nouvelles. Si c'est un auteur que je connaissais, que je lisais avant. Brandon Sanderson, je n'ai pas traduit tout ce qui a été paru en français, les grandes parties. Et d'autres. Grand Judge, Brandon Sanderson, c'est plutôt des auteurs, effectivement, que j'ai plus traduit.
Et
vous avez
traduit
ça en fait pour elle. Oui, c'est bien. Il y a un cas particulier, puisque c'est un projet qui a été monté avec l'éditeur, qui est. Enfin, un petit peu développé, un éditeur qui s'appelle Dystopia, a décidé de monter une collection qui s'adresserait à différents traducteurs en demandant à chacun de choisir un auteur qui voulait mettre en avant et de sélectionner une traduction pour passer les tests. Et du coup, j'ai choisi Elisabeth Hubble qui m'avait marqué beaucoup à l'adolescence, qui n'était plus publiée. Et c'est pas un éditeur qui m'a contacté, contrairement à tous les autres auteurs que j'ai traduits. C'est un projet vraiment que j'ai monté de manière plus personnelle.
On va en parler de tout, mais comment est-ce que vous êtes venu à la traduction ? Est-ce que vous avez une formation particulière pour être
venu à la
D'accord. Alors, j'ai tendance à dire que je suis bien à la traduction par hasard. C'est une longue histoire, vous êtes prêts à l'écouter ? Oui, en une heure et demie, d'accord. Non, en fait, après mon baccalauréat, je me destinais à faire traducteur-interprète. Voilà. Donc, je me suis inscrit dans une école de traducteur-interprète à Tours. Vous voyez où c'est Tours ? C'est en Indre-et-Loire. Qui formait des traducteurs-interprètes en 2 ans. Mais destiné essentiellement aux. L'industrie, le commerce, des choses comme ça. Alors, il se trouve que moi, après mon bac à 18 ans, je partais vers les Andes, j'étais tout seul parce que je suis nantais.
Si vous souhaitez découvrir l'univers Toulon, il est possible sur le point 4 de participer à un tournoi. Nous vous fournissons bien sûr des jeux afin d'apprendre et de découvrir l'univers.
Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, donc, à 18 ans, j'ai quitté ma province, comme disait Charles Aznavour, pour aller à Tours, et j'ai découvert la liberté, évidemment, loin de chez les parents. Et au lieu d'aller en cours, j'ai fait un bling pendant non pas 2 ans, parce que j'ai fait une année de rap, j'ai 3 ans, où j'allais quasiment jamais en cours. Mais j'ai appris à jouer de la guitare, parce que je suis musicien, normalement. Je suis devenu musicien grâce à ça. Et donc, au bout de 3 ans, il devait y avoir un examen qui n'a pas eu lieu, c'était en mai 68. Il y a eu plein de circonstances. Et donc, je suis devenu, après quelques péripéties, j'ai passé par la banque, des usines d'encre, enfin, j'ai fait des petits boulots. Et en 74, je suis devenu musicien professionnel. Voilà. Or, au début des années 80, c'est ouvert à Nantes une librairie qui s'appelle La Talente, qui existe toujours. Bien sûr, et qui a commencé à faire de l'émission. C'est une librairie qui était consacrée exclusivement au cinéma, au polar et à la science-fiction. Moi, je m'intéressais aux trois, surtout au polar, parce que bon, j'ai eu un petit aparté en 6e, 5e, un prof de français latin qui s'appelait Thomas Marsejac, du tandem Bruno Marsejac, et qui nous racontait des histoires policières, qui faisait lire obligatoirement Arsène Lupin, et tout ça, qui était un prof génial. Quand j'ai commencé à lire du polar à l'âge de 10-11 ans, acheter des séries noires, tout ça. Et donc, au début des années 80, quand c'est ouvert cette librairie, j'étais tout enfouré, évidemment. C'était toute petite librairie. Maintenant, elle a changé de lieu, elle s'est un peu agrandie, mais à l'époque, c'était vraiment tout petit. Il n'y avait qu'un seul gars qui t'appelait, qui commençait à être éditeur, Pierre Michaud. Et on est devenus vite copains parce que j'étais musicien, il avait fait de la guitare, il avait chanté de la chanson quand il était jeune aussi. De fil en aiguille, force d'être copain, évidemment, un jour il m'a demandé si ça ne m'intéresserait pas de traduire un bouquin, parce qu'il ne veut pas traducteur pour ce bouquin-là.
Le tournoi Vanguard aura lieu dans une heure sur le Pôle 4. Vous pouvez dès à présent vous inscrire.
On se le dise. Et donc, oui, je disais un jour, comme il ne trouvait pas de traducteur, ou ses traducteurs habituels étaient déjà occupés, il m'a demandé si je voulais bien essayer de traduire un bouquin. J'ai réfléchi un petit peu, un jour ou deux, et j'ai dit, bon, ben, jusqu'à rien, mais peux-tu faire laisser ce premier chapitre. Et ce bouquin, c'était les mémoires d'un auteur de polar, Jim Thompson, qui s'appelle Vaurien. Et Jim Thompson, pour ceux qui ne connaissent pas, il a écrit des bouquins, des romans noirs formidables, dont certains ont été adaptés au cinéma par des Français, entre autres Coup de torchon de Tavernier et Série noire dans les cordons, avec Patrick Tatin. Deux grands films, mais c'était aussi deux grands bouquins. Donc j'ai traduit ce premier bouquin, et à partir de là, il m'en a proposé à chaque fois, et j'ai pu arrêter. Voilà. Donc j'ai eu de la chance, parce qu'il faut bien dire que s'il acceptait mon essai sur le premier chapitre, il a lu le premier chapitre. Ça, ah, bah oui, ça va aller. Allez, tu fais le bouquin. Puis quand je suis revenu avec le bouquin, il a remis le plein premier chapitre. Il m'a dit ah, bah non, ça va pas. Ah, bah non, mais ça va pas. Et on a passé tout un été à refaire toute la traduction, à retravailler dessus. Voilà. Donc, je suis un traducteur et j'ai appris vraiment sur le tas. Voilà. C'était même dans l'escalier parce que c'était tellement petit, j'étais coincé sur les marches de l'escalier pendant que j'étais à son bureau. On relisait phrase par phrase. Quoi. On voyait à deux comment on pouvait traduire telle phrase, voilà. Et puis après, j'ai fait le deuxième, ça allait mieux, le troisième, et puis voilà. Et puis un jour, il m'a proposé Terry Pratchett, 7 ou 8 ans après. Mais entre-temps, j'ai fait plein d'autres bouquins.
Oui,
c'est en 98, c'est en 98. C'est vieux, je Oui, c'est ça. Oui, on a remis le prix, c'était Utopie, c'était avant les Utopiades, maintenant c'était à Poitiers, j'en souviens, en 98. Voilà.
Ok, et toi, Mélanie?
Moi, je suis arrivée
de manière plus directe, entre guillemets, j'ai fait des études qui étaient orientées vers l'anglais, parce que vraiment j'adorais la langue anglaise. Simplement, les métiers qu'on proposait ne paraissaient pas, enfin, moi, on m'intéressait pas tellement. En gros, notre question, vous pouvez être prof, vous travaillez en entreprise et éventuellement parler anglais. Mais je ne trouvais pas un métier qui soit vraiment axé sur la langue anglaise.
Un tournoi Toulouse pour débutants est disponible sur le Pôle 4.
Ça fait très bouquin publicitaire de série télé en fait. Épisode suivant, je vais voir je crois que c'est un conseiller d'orientation à qui je demande à la fac après mes études d'anglais ce que je pouvais faire. Et qui me sort tout un tas de trucs orientés commerce, etc. Tout en bas, il y a deux petites options qu'il essaie de me déconseiller absolument de prendre, qui sont l'une pour traduire le lieu visuel, donc plutôt des sous-titres et doublages, et l'autre, la traduction littéraire. Moi, j'ai scotché sur ça, notamment sur le lieu visuel, puisqu'à l'époque, j'étais fan de cinéma. Il a absolument essayé de m'en dissuader en disant il n'y a pas de débouché, allez plutôt en commerce, etc. Et j'ai quand même envoyé un dossier pour les deux, et j'ai été retenu pour passer mon cours de traduction littéraire à Paris. Et ce qui se trouvait assez bien, puisqu'en fait, moi je me suis auteur, et j'écrivais déjà à ce moment-là, l'idée de mêler l'anglais et l'écriture m'intéressait vraiment. Donc j'ai fait une formation d'un an, donc un DESS après la maîtrise à Paris, qui était orientée en traduction littéraire, qui était super intéressant, j'ai appris pas mal de choses, mais qui, ça peut être changé parce que ça se répand maintenant, mais il faut savoir que traducteur, c'est pas un métier où on regarde les diplômes, on regarde plus l'expérience, concrètement les compétences qu'on est capable de faire. Aucun éditeur n'a jamais regardé mon diplôme. Il se trouve que j'en ai un, mais je pourrais ne pas en avoir, ça fait aucune différence. J'ai pas mal d'amis qui sont... J'ai une amie qui est traductrice aussi, qui a fait des études de biologie. On a vraiment tous les études profil. Beaucoup de gens se sont reconvertis en traduction tardivement. Moi, il se trouve que j'ai fait des études, mais voilà, c'est pas un cursus et partant de là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Si au moment où j'ai vendu ma première nouvelle, elle m'a lu, et je leur ai demandé s'ils ne cherchaient pas justement des traducteurs pour les textes anglophones, ils m'ont fait faire un essai. Ça leur a convenu, donc ils m'ont manqué d'autres nouvelles, et ensuite j'ai cherché à obtenir des contrats pour demandant, ce qui m'a pris quelques années. Et ensuite, c'est Brad Jones qui m'a donné mon premier, c'était Louis Pepperstein. Il m'avait promis que, parce que j'avais un petit boulot en hôtellerie à ce moment-là, ils m'ont promis que s'ils me donnaient une traduction, ils me garantissaient au moins 2 ans de traduction. C'était pas écrit, c'était pas signé sur contrat, mais ils m'avaient donné leur parole qu'ils le feraient. Ce qu'ils ont fait, effectivement. Donc à partir de là, voilà, ça fait depuis 2002 maintenant que je traduis en anglais.
Est-ce qu'on peut parler du processus éditorial de la traduction? Parce que c'est vraiment une boîte noire pour pas mal de gens. Il y a plein de gens qui vont se dire « Ah, on fait très bien, il y a un traducteur, on va mettre. » Mais comment ça se passe?
Concrètement, quelle est la question? Parce que j'ai une question.
Est-ce que tu peux décrire comment ça se passe quand tu reçois une proposition de traduction?
J'y vais, je te passe le...
Vas-y.
Comment ça se passe? En général, un éditeur avec qui je travaille déjà, parce qu'on a tendance à retravailler avec le même traducteur et éditeur, m'écrit en disant j'ai reçu tel livre ou je viens d'acheter les droits de tel livre, j'ai pensé que peut-être que le style t'intéresserait ou te conviendrait, qu'est-ce que tu en penses? Donc à ce moment-là, il m'envoie le livre, je le lis, je décide si oui ou non je suis intéressée, si j'ai le temps à ce moment-là, voir si les conditions me conviennent. Si c'est un éditeur qui propose des tarifs vraiment beaucoup trop bas, on peut refuser à ce moment-là. À partir de là, comment ça se passe? On signe un contrat qui nous engage à rendre la traduction à une date donnée. Et le contrat définit le paiement, définit pas mal de choses, mais surtout définit une date à laquelle on rend la traduction. À partir de là, on s'arrange nous. C'est un des métiers où j'ai envie de dire, on n'a pas quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule ce qu'on est en train de faire tout le temps. C'est qu'on a juste un devoir de rendu à la fin. On fait absolument ce qu'on veut entre temps, ce que je trouve assez génial. Et après, je ne sais pas, on passe un certain nombre de mois sur la traduction, ça part chez l'éditeur, après il va y avoir des corrections aux lectures. Je ne sais pas quoi en dire de plus en fait.
C'est déjà
pas mal.
C'est bien,
ça va aussi. Oui, pas toujours aussi bien que ça devrait.
Ouais, je vais dire à peu près la même chose, forcément, parce que. Moi, il se trouve que je travaille quasi exclusivement pour un éditeur, la Talente. Il m'est arrivé juste une fois de traduire un bouquin pour Gallimard, pour la collection Noire, parce que je connaissais le directeur de la série Noire à l'époque et cherchais un traducteur qui soit aussi musicien, puisque c'était un roman qui tournait autour du blues des années 20 et 30 dans le sud des États-Unis. Je suis un peu spécialisé là-dedans, donc j'ai été pris comme traducteur. Et c'est le seul roman, le seul bouquin que j'ai traduit pour un autre éditeur que la Talente. Donc la Talente me fournit tout le temps des bouquins, un an ou 2 ans à l'avance, je sais ce que je vais faire à peu près. Et tant que la Talente existera, je pense que j'aurai du travail. Et puis si jamais ça n'existe plus, j'arrêterai de traduire, parce que j'ai pas envie de traduire pour trouver mes éditions vraiment. Ou alors il faudrait vraiment que je sois dans la dèche, quoi, que j'ai besoin de sous. De toute façon, chez tous les éditeurs, on procède de la même façon, hein, comme l'a expliqué Mélanie. On signe le contrat, on doit remettre à telle date. Et ensuite, une fois qu'on a terminé la traduction, on la rend à l'éditeur. Et l'éditeur la relit, il apporte des corrections, il propose. Souvent d'autres corrections qu'on n'est pas obligé d'accepter d'ailleurs. Et on rentre les corrections, si on a envie d'y rentrer, on les redonne, on donne tout ça à l'éditeur qui fait la mise en page. Alors je ne sais pas comment ça se passe chez les autres éditeurs, mais je sais qu'à la Talente, une fois que c'est mis en page, on nous redonne le bouquin à lire. Une fois le bouquin mis en page. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on peut encore apporter des rectifications, apporter soi-même des corrections. Bon, on n'a pas aussi comme certains traducteurs de romans, je ne sais pas si vous avez connu Maurice Capoeiro, qui était le plus grand, lui il avait vu même jusque chez l'imprimeur au dernier moment pour corriger encore des phrases. En fait, on lit et relit le bouquin plusieurs fois avant sa parution. Moi, peut-être
une fois moins que toi, parce que j'ai un défaut qui est une tare pour être lecteur, c'est que je ne lis jamais les bouquins avant d'être habillé.
Je les lis très peu, en fait.
Ah, tu les lis très peu.
Je lis seulement si c'est un auteur que je trouvais.
Je lis seulement si c'est un auteur que j'ai jamais lu et que je veux me faire une idée du style, d'accord, si ça m'intéresse ou pas. Mais si par exemple, c'est. Par exemple, Brandon Sanderson, où je travaille beaucoup en ce moment, je ne lis pas les livres avant, même si c'est une nouvelle série. Lui, je sais à peu près à quoi m'attendre.
Voilà.
À la limite, je préfère découvrir au fur et à mesure.
Et moi, c'est exactement la même chose. Et surtout pour Terry Pratchett, parce que je sais à peu près à quoi m'attendre, entre autres, à devoir surmonter des tas de difficultés. Et si je devais lire le bouquin à la France, je serais découragé, vraiment. Enfin, je serais soit découragé, soit j'essaierais de résoudre la difficulté tout de suite. Alors autant se mettre à la traduction directement. Voilà. Et puis ça m'énerve le suspense en même temps, j'ai envie de connaître la suite, donc ça me pousse à avancer.
Ça marche assez bien.
Ça marche assez bien.
Alors, est-ce que, tu as parlé de difficultés, on a parlé de choses à quoi s'attendre, est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'il y a des difficultés dont vous pouvez parler en fonction des auteurs, en fonction aussi du style de roman, parce que l'eau, c'est vraiment pas mal.
Des difficultés qui sont. Enfin, contraintes et difficultés dépendent de chaque livre, quasiment. Après, je ne sais pas, il y a rien à voir. On peut en avoir, par exemple, si on vise un lectorat particulier. Je pense notamment aux contraintes pour la jeunesse, qui est un domaine que je ne connais pas très bien, mais je pense qu'il y a, un certain nombre de contraintes dans le style, de la manière de rendre le style. Après, les difficultés, il y en a tellement. Pour certains, ça va être un style très littéraire qui va être assez difficile à rendre. Pour d'autres, pour chaque auteur, j'ai une difficulté différente. Je parlais de Sanderson tout à l'heure, qui a tendance à faire des séries à rallonge. Et sa dernière série en cours sont des bouquins qui font 1000 pages. Il y en a 10. Curieusement, ce qui m'a donné du mal, c'est pas tellement la longueur du livre, puisqu'en fait, c'est comme si je traduisais 3 livres de plus courts à la suite. Donc finalement, c'est proportionnel. Ce qui m'a donné beaucoup de mal, c'est qu'il balance énormément de termes inventés. Et pour au moins une bonne moitié des termes, on ne sait pas encore tout ce que ça va produire, puisque la série commence à peine. J'ai beaucoup dialogué avec son assistant pour poser des questions pour les nuances de certains termes en disant bon, ce mot-là, moi je comprends ça, mais est-ce que ça veut dire autre chose? Il n'a pas toutes ses réponses, mais ses réponses n'ont pas toujours été. Donc la grosse difficulté dans ce cas précis, ça a été de choisir des termes que je fixe pour une série de 10 livres, et je ne sais pas entièrement ce que ça rend. En plus, c'est le champion de retournement de situation, des explications telle mythologie, telle vérité, telle histoire. Statistiquement, j'ai fait des erreurs sur la taille des livres. Pour d'autres, ça va être plus de rendre. Lisette Hotel, dont je parlais, c'est quelqu'un qui a un style extrêmement fluide. Et je me suis aperçue que quand on rend son style tel quel en français, ça donne des phrases extrêmement plates. Alors qu'en anglais, ça coule de source, c'est simple mais pas simpliste, ça coule vraiment. En français, ça ressemblait à rien, donc il a fallu trouver un moyen de reformuler, parce que c'est un style assez élégant et que ça ressemblait à rien de part. Après, il peut y avoir des domaines de recherche particuliers. Au local du monde, parler Patrick parce que c'est plus son domaine que le mien. Il peut y avoir des domaines, par exemple, on parlait du blues dans les années 20, des recherches à faire sur un domaine vraiment très pointu. Certains textes qui vont être sur un sujet particulier. Il y a autant de difficultés qu'il y a d'auteurs, je dirais.
Voilà, sur l'humour, par exemple.
Ouais, avant de parler de l'humour, c'est un bouquin qui m'avait posé beaucoup de difficultés. Ça n'avait rien à voir avec la littérature de l'imaginaire, c'était Les journaux de voyage de Jean-Jacques Audubon. Jean-Jacques Audubon, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un Français qui a émigré aux États-Unis à l'époque napoléonienne, son père qui l'a envoyé là-bas pour pas qu'il soit conscrit dans l'armée de Napoléon, et qui est devenu un grand peintre animalier aux États-Unis. Il est connu de tous les enfants américains parce qu'ils ont des reproductions de ses tableaux d'oiseaux dans toutes les classes. Enfin, John James Audubon, il l'appelle, c'est Jean-Jacques. Voilà. Il se trouve qu'il était baptisé dans l'église qui est à côté de chez moi à Nantes. Il a vécu à Nantes un moment, dans la région nantaise. Et j'ai traduit ses journaux de voyage et c'est truffé évidemment de noms d'oiseaux. Et là j'en ai bavé, quoi, parce qu'il fallait retrouver les noms français. Enfin, ça, c'est abominable. Heureusement, j'ai un copain qui est également peintre animalier, qui a peint des oiseaux, tout ça, et qui m'a beaucoup aidé. Mais j'ai passé un temps fou, mais vraiment un temps fou, à déchiffrer les noms
oiseaux au bout d'un moment. D'ailleurs, la famille Boudin, je ne pouvais plus voir les oiseaux en pâture. C'est abominable. Alors ça, c'est une des difficultés, les difficultés vraiment liées à un domaine très particulier. Quoi. Ça peut être tellement des romans sur la mécanique, à laquelle je ne connais rien, ou des choses comme ça. Quoi. Et ça demande d'effectuer énormément de recherches. Recherches qui actuellement sont plus faciles à faire que dans les années 80, parce qu'avec Internet, c'est vrai qu'on a accès à des tas de données. À l'époque, moi j'étais obligé d'aller à la médiathèque de Nantes, je passais des fins d'après-midi pour trouver un mot. C'est du nom. Maintenant, bon, heureusement, on va plus vite. Ça, c'est un avantage. Alors maintenant, pour la question évidemment, de l'humour, ça c'est également une difficulté, surtout chez Terry Pratchett. Mais chez Terry Pratchett, il n'y a pas que l'humour. Évidemment, il a des jeux de mots. Bon, les jeux de mots, ça, c'est pas facile. Il a les références, des citations. Bon, la plupart des lecteurs anglais ne voient pas toutes les références, mais toutes les citations, évidemment. Bon, lecteur français aussi, j'imagine, parce que j'en mets que des gens ne voient pas, mais c'est pas grave, s'il y a qu'un seul lecteur qui voit la citation, c'est bien. Les citations, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à peu près tout. Mais c'est déjà beaucoup. Les citations, surtout chez Pratchett, elles vont, je le disais encore tout à l'heure à un lecteur qui est venu me voir, ça va de Dumbo l'éléphant à l'inspecteur Harry, en passant par Shakespeare, enfin ça va dans tous les sens, vraiment. Et la difficulté, c'est évidemment de les repérer, surtout pour un Français. Et heureusement, il existait un site qui faisait des fans avaient collecté toutes les références ou répertorié toutes les références qu'ils avaient repérées. Ce qui était très pratique. Et pour chaque bouquin, il y avait 2-3 pages de références. Alors par exemple, page temps, le personnage dit ça, c'est tiré d'un poème d'un poète élisabétain. Enfin, que je connaissais pas d'ailleurs, par exemple. Hein. Et du coup, ben, je cherchais le poète, non, c'est sur lui. Je parle de poète élisabétain, parce qu'effectivement, quand c'est produit, c'était dans le milieu des sorcières, quelque chose comme ça, où il y avait plusieurs citations comme ça, qui intervenaient dans le texte, l'air de rien comme ça, sournoisement, je dirais, qui intervenaient dans le texte. Et qui était d'un auteur que je ne connaissais pas, et qui parlait d'elfes, d'esprit de la nuit, de je ne sais quoi. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que j'aurais pu traduire littéralement, mais ça ne présente pas un gros intérêt. Et donc, je me suis renseigné auprès d'un copain à moi, Pierre Dubois, là, dont le métier, c'est sur sa carte de visite, est elficologue. Ouais, ça, il est un peu allumé, hein, faut dire. Et donc, je l'ai appelé au téléphone, et il me dit « Ah ouais, tu veux trouver des trucs comme ça dans la poésie française. Alors tu devrais lire certains textes de Théophile Gautier, puis Victor Hugo. » Et du coup, je me suis payé les Victor Hugo, j'en avais pas lu depuis un certain temps, je ne sais plus dans quel recueil c'était. Enfin, et j'ai trouvé des vers qui correspondaient à peu près. C'est-à-dire que dans la version française, au lieu d'avoir des citations de cet auteur élisabétain, j'ai des citations de Victor Hugo, ce qui est bien aussi. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a des lecteurs de Pratchett parmi vous, oui. Et si vous les avez repérés, non, c'est pas grave. Mais enfin, j'ai ma conscience pour moi. Ça va. Ça, ce sont les références, bien sûr. Il y avait aussi des références de. Je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'il y en a tellement. Il y a un bouquin qui est Accro du rock, où il y a énormément de références musicales. Et avec des jeux de mots qui sont. Bon, il y en a un en particulier qui n'était pas facile. Je résume la situation. C'est quelqu'un qui raconte à un autre qu'un main est allé une nuit dans un temple pour voler un instrument de musique. C'est je crois, qui était en or. Voilà. Et il s'est habillé tout en noir, ce nain, là, pour aller discrètement voler le truc. Et ce nain, c'était un moine, je crois. Et l'autre lui répond qu'il n'en a rien à faire de ce Thelonious Monk. Ce moine, référence à Thelonious Monk, évidemment, et c'est un moine félon.
Alors là, le traducteur, c'est pas là, il s'arrache les cheveux, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Et il se demande comment il va s'en sortir. Et j'ai juste rajouté un détail, c'est que pour c'est que le moine, pour aller voler ce corps en pleine nuit, pour faire moins de bruit, il avait ôté ses chaussures. Voilà. Donc il était tout en noir, chaussettes comprises, pour aller voler ça. Et quand le gars raconte ça à son copain, le copain lui dit, je n'en ai rien à faire de ton moine en chaussettes noires. Alors, les chaussettes noires étaient un groupe de twist rock français des années, début années 60, dont le chanteur était Eddie Mitchell, dont le vrai nom est Claude Moine. Voilà. Alors bon, ça marche, mais il faut aller chercher loin. Mais certains lecteurs l'ont vu. Enfin, des lecteurs ont un certain âge déjà, bien sûr. C'est les sujets noirs, Eddie Mitchell et Claude Moine. Voilà. Bon, j'aurais d'autres exemples sûrement à citer, mais dans Accru du Rock, effectivement, il y a beaucoup de références musicales. Là, je me suis donné un cœur joie dans les grands groupes. J'ai même rajouté une contre-pétrie à un moment, parce que peut-être que je n'avais pas pu traduire une blague quelque part. Dans ces cas-là, j'essaie d'en rajouter une d'ailleurs, pour que le lecteur français ait le même tour de blague que le lecteur anglais. Par raison, favoriser les uns pour les autres. Et je me souviens que dans une scène, ce sont les mages qui sont en train de dîner, ils sont pris, surtout l'économe, je crois, est pris par l'esprit du rock, là, qui est bien fou, il se met à faire de la batterie sur la soupière. Et l'archi-chancelier, le patron des mages, se tourne vers lui, il lui dit, arrête de faire ça, en gros, moi je sais plus comment c'est, arrête de faire ça, je t'envoie dans la soupière des présents. Alors, il faut... C'est une référence à une chanson de Johnny Hallyday des années 60 qui était dans la poussière de Brasse-en-Croix. Voilà. Bon. Certains lecteurs l'ont vu aussi, ça. Voilà.
T'as peut-être quelque chose.
Je vais rebondir sur d'autres choses. La référence, je suis en train de penser que août, alors, sans tomber dans les poèmes obscurs d'Elisabeth, etc., on peut tomber assez régulièrement sur des références qui sont extrêmement connues. La culture anglophone et des choses que tout le monde va connaître. Et si nous, je pense par exemple à un exemple sur lequel on tombe souvent, c'est le magicien d'Oz.
Bah oui.
Il y a des expressions du magicien d'Oz qui sont extrêmement connues en anglais qu'on va retrouver telles quelles dans les références.
La route de Blake Jones et tout
et
ça.
Et chez nous, on n'a pas de traduction canon de ça. Alors on a deux choix, soit on est dans un contexte où on adapte pour remplacer, soit on garde tel quel et on explicite, on trouve un moyen de. Mais on occupe souvent des petites choses comme ça, même Shakespeare. Alors Shakespeare, on commence. En traduction, on commence à être versé en Shakespeare, en citation biblique, on peut l'autre. Il y a un certain nombre de domaines comme ça, au bout d'un moment, on a un radar pour les repérer. Le magicien d'Oz en fait partie. J'ai jamais lu ni vu le magicien d'Oz, mais il y a des expressions que je reconnais tout de suite, à force de les avoir lues. Après, j'allais dire, il y a une difficulté qui m'est revenue après coup et à laquelle j'avais pas pensé tout à l'heure, c'est quand on traduit spécifiquement de la SF et de la fantasy, c'est le nombre de termes inventés qu'il va falloir traduire. Et donc l'anglais, il sera un souple pour ça, c'est qu'on peut prendre simplement deux mots et les coller ensemble, et ça va sonner très bien en anglais. En français, on n'a pas cette possibilité, donc il faut soit on traduit littéralement en explicite, soit ça va être beaucoup plus long, soit on va s'amuser avec les racines grecques, latines, on essaie de coller un truc et ça marche pas toujours. C'est souvent un gros casse-tête de trouver quelque chose qui soit aussi simple et efficace que ce qu'on peut faire en anglais. Et c'est un truc, je me casse les dents dessus chez Brandon Sanderson qui adore coller deux mots ensemble. Et notamment, il me fout partout des light. Il y a énormément de mots avec light. Et il y a une expression strong light dans La Voix des Rois. Il y a un personnage qui s'appelait light. Soit c'est une série où il y a des personnages qui deviennent des dieux. Ils ont tous des noms qui sont deux mots à coller. Et je ne trouvais pas comment traduire ça. En général, pour obtenir quelque chose de concis, j'ai dû remplacer light, qui veut dire lumière, par flamme. C'était ce que j'avais de plus bref qui pouvait coller. Et en même temps, le sens n'est pas vraiment là, donc on est obligé de... C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup ramé ces dernières années, ça. Comment on fait pour coller deux mots tout simples en français, et faire aussi simple et aussi que long. Souvent, ça oblige à vraiment pas mal.
J'avais une question pour toi, spécifiquement, parce que tu es aussi écrivain, tu fais des nouvelles avec des mots. Entre traduction et écriture, quelle est la différence?
Plutôt qu'est-ce que... point de vente, cette conférence. Je dirais que les deux se complètent, alors c'est pas du tout la même chose dans le sens où il y a une différence quand même assez énorme, c'est que l'écriture, ça sort de notre cerveau. En fait, c'est nous qui. Il faut se presser le cerveau pour sortir les idées, ensuite il faut les mettre en forme, il faut les mettre en. On trace tout bien de nous, alors que la traduction, on se met au service du texte de quelqu'un d'autre. Donc on a un travail sur le style, sur l'écriture, qui est extrêmement instructif, parce qu'en plus, moi, ça me. Je dis toujours que je fais mes gammes au quotidien en traduisant. J'apprends énormément de choses sur la façon dont on peut rendre, je sais pas, sur la concision, notamment. J'ai appris à écrire de manière beaucoup plus concise. On apprend aussi des choses à pas faire, par exemple, dans mes textes, je ne mettrai jamais un personnage qui hausse les sourcils, lève les yeux au ciel, hausse les épaules, etc., pour ponctuer un texte, parce que ça, les anglophones le font tout le temps, j'en peux plus le traduire. Il y a des choses comme ça qu'on apprend. Après, moi, la grosse différence, elle est là, c'est pas mon travail à moi, je me mets au service de quelqu'un d'autre. Accessoirement, ça va être mercenaire parce que c'est la traduction, je ne suis pour gagner ma vie. L'écriture, clairement pas. Donc, déjà, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Mais les deux se nourrissent vraiment. Ce que j'apprends pour l'un va me servir pour l'autre. Et j'ai constaté que j'ai. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, mais la première nouvelle publiée, je l'ai vendue en sortant de mon année d'études de traduction. Et je pense que les exercices qu'on a fait pendant cette année-là m'ont appris des choses sur l'écriture. Et notamment, on avait un prof qui nous faisait traduire des extraits de théâtre. Parce qu'il fallait apprendre à rendre à l'oral, en fait. Moi, j'avais des fois en entrant cette année de faire que je voulais regarder toutes les nuances. Et ça donne des phrases interminables qui sont impossibles à lire à l'oral. Il nous a appris que pour le théâtre, en tout cas, il fallait s'adresser. On s'en fout de garder toutes les nuances. Ce qu'il faut, c'est que ça sonne. C'est quelque chose qui m'a énormément servi dans l'écriture. Donc, après, quelles sont les différences? On en essaie déjà beaucoup.
De retirer un peu de sens si on a besoin. Est-ce que c'est commun d'avoir à faire des outils?
Le truc avec la traduction, c'est que c'est. Je pense qu'il y a une chose qu'on apprend en commençant à traduire et qu'on garde en tête et qui est le paradoxe du métier. C'est que de toute façon, on ne peut pas transposer littéralement un bouquin, ça n'existe pas. Donc il va y avoir des pertes. À un moment ou à un autre, il y a des pertes. Il y a des choses qui vont être maladroites. Il va y avoir. On ne peut pas tout garder. Donc déjà, il faut faire son deuil aux infos à la traduction parfaite parce que ça n'existe pas. Plus j'avance, plus je m'aperçois qu'il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est la concision pour l'impact des phrases. Et c'est en traduisant Trapjoyce, notamment un livre qui s'appelle Ligne 2, qui moi a vraiment été une leçon de traduction. C'est la première fois que j'ai traduit un livre où il y avait un jeu sur le rythme qui était tellement important. Il y avait des phrases qui avaient un rythme scandé en fait. C'était vraiment. C'est difficile à expliquer sans avoir le texte. Et il y avait un rythme quasiment incantatoire pour certains passages. Il décrivait notamment une scène complètement onirique qui se passe en Angleterre, Coventry, pendant les bombardements. Et cette scène est complètement magique et ça tient sur le rythme essentiellement. Et les phrases ont vraiment une structure très très précise et très, très rythmée. Et je me suis aperçue que si je traduisais ça en regardant toutes les nuances, le style ne ressemblait à rien et toute la magie du passage disparaissait. Donc c'est la première fois où j'étais face au fait que si je voulais vraiment garder l'esprit du texte, il fallait que je coupe des mots. Et que c'était pas une trahison, que c'était le meilleur service que vous pouvez avoir dans le texte, c'est de ne pas m'accrocher à chacun des petits. En plus, je me suis aperçue très souvent quand on a par exemple, admettons qu'on traduit une phrase où il y a trois adjectifs, on les traduit littéralement. Très souvent, quand je corrige à la lecture, je m'aperçois qu'un des adjectifs peut être sabré. Parce qu'il n'apporte rien et qu'à la limite, il est contenu dans les deux autres. Il y a énormément de. Je dirais qu'on a vraiment un esprit de synthèse en avançant. Essayer de s'apercevoir si tel mot finalement n'est pas déjà contenu dans la phrase ailleurs, si on ne peut pas supprimer ça, si on ne peut pas remplacer par un mot qui a remplacé les trois. Il y a vraiment tout un travail sur ça, mais pour moi, ça a été peut-être la plus grande leçon que j'ai eue avec la question de vie. C'est découvrir que pour respecter un texte, il ne faut pas hésiter à couper. Et ça peut paraître une hérésie, mais je ne parle pas de couper des phrases entières, je parle de couper des mots qui vont casser un effet à mon entendre.
Et toi, Patrick?
Je suis entièrement d'accord avec Mélanie, c'est vrai. Et même, des fois, il est parfois bon de ne pas respecter le texte original. Parce que dans la littérature populaire, il faut bien dire que ça n'est pas toujours très bien écrit. Alors si on respecte le style de l'auteur, c'est le traducteur qui va se faire taper sur les doigts. Parce qu'effectivement,
c'est toujours la faute du traducteur.
C'est toujours la faute du traducteur. Donc dans ces cas-là, on raccourcit. Parce que moi, c'était un traducteur, Michel Lebrun, qui disait raccourcir, c'est améliorer. et il avait raison. Donc on raccourcit et on améliore, et en fait on rend service à l'auteur d'un certain côté. Mais on ne peut pas se permettre de traduire un texte mal écrit par un français mal écrit, c'est pas possible. Parce que de toute façon, les lecteurs accuseront le traducteur d'avoir fait un mauvais travail. Vas-y.
Le nombre de fois où je traduis quelque chose qui est voulu par l'auteur, qui est vraiment soit un trait d'humour, quelque chose qui est volontaire, où je me dis, mais je suis sûre que les gens vont dire que le traducteur s'est planté, alors que c'était exactement ça. J'en ai un dans ma traduction en cours, je suis sûre que les gens vont s'arrêter dessus en disant, la traductrice a rien compris. Alors qu'en fait, je fais juste traduire un trait d'humour de l'auteur, mais je ne vois pas comment faire. C'est toujours la faute de
la ah, toujours.
Est-ce que vous avez des anecdotes, quelque chose de marrant à raconter est-ce qu'il y a des choses vraiment particulières dans votre parcours de traducteur?
Là, comme ça, tout de suite.
Parce que tu es en train de se marrer.
Non, mais j'essaie de me mettre dans l'état d'esprit quelque chose de marrant. Donc, vous imaginez, je ne me souviens pas.
Est-ce que, en tout cas, vos plus grandes satisfactions de traducteur, peut-être? Est-ce que c'est la scène de Crime Choice par exemple, toi?
Plus grande satisfaction, je ne sais pas, c'est un livre avec lequel il s'est passé un truc vraiment. Et les retours des lecteurs sur ce livre m'ont laissé penser que j'avais, enfin, en tout cas, j'avais pas mal fait mon travail. C'est des premières fois, c'est la première fois que j'ai laissé l'impression que j'avais vraiment bien fait mon travail. Puisque ce que disaient les gens sur ce livre, c'était tel que je l'avais lu en anglais. Parce que souvent, c'est ça, il y a ça aussi, c'est que le traducteur, la traduction est censée être invisible. Les gens ne vont pas forcément s'écrire à toutes les pages que la traduction est géniale, mais si quelqu'un parle de son ressenti du livre, le ressenti est exactement celui qu'on avait demandé, on sait déjà comment on a fait le travail. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est qu'il y a certains auteurs avec lesquels des lecteurs sont venus me voir pour parler de traduction. Il y a eu pendant cette dans ce récemment, il y avait un auteur qui s'appelait Kelly Armstrong, avant ça, et plusieurs fois des lectrices, notamment de Kelly Armstrong, sont venues acheter mes livres parce qu'elles avaient aimé mes traductions de l'auteur. Et ça, j'ai trouvé ça assez touchant, je ne pensais pas que les gens faisaient attention à notre traducteur. Sauf quand on traduit cette télégraphie avec un truc qu'on est connu.
Oui, bah, j'ai au moins deux exemples de grande satisfaction en tant que traducteur. Premier exemple, c'est reproduit plusieurs fois d'ailleurs, c'est que des Anglais, voilà, lecteurs de Pratchett en anglais, qui étaient bilingues, ont racheté les traductions françaises. Et ça, bon, ça fait extrêmement plaisir pour le traducteur. Et une autre satisfaction, là, c'est lorsque Terry Pratchett est venu aux Utopias à la Nantes en 2003, on avait préparé pour lui aux Utopias une salle qui était moitié moins grande que ça, pour signer. Il était tout seul dans la table avec son stylo. Et il y avait une queue monstrueuse qui attendait à l'entrée. Certains de vous y étaient peut-être, non, d'accord, voilà, une queue monstrueuse à l'entrée, et les gens n'entraient pas. Et au bout d'un moment, Pierre Michaud, l'éditeur de La Talente, est allé voir Pratchett, est allé voir les gens qui attendaient, les lecteurs, pour leur demander pourquoi vous n'entrez pas, et ils ont dit, on attend le traducteur, pour qu'il signe avec Pratchett. Et donc on est venu me chercher en catastrophe. Heureusement, j'étais sur place, mais c'était à la Cité des Congrès de Nantes, c'est très vaste. On est venu me chercher en catastrophe, et je suis arrivé essoufflé, et Pratchett était là avec son stylo, il était peut-être au moins 20 minutes. Et je me suis installé à côté de lui, on a signé pendant 3 heures. Voilà, 3 ou 4 heures. Enfin, il y a eu 400 signatures, ce qui est pas mal, 3 heures, c'est ça, non-stop. Donc, il signait, moi je prenais le bouquin après, j'ai signé aussi, et ça, c'est génial. J'ai pas vu les heures passer. Et là, du coup, je me suis dit, au moins Pratchett, il sait que je fais du bon boulot. Ouais. Parce qu'avant, il y avait eu des petites histoires. Enfin, bon. Parce que l'auteur n'est jamais sûr que ses œuvres sont bien traduites dans un pays ou un autre. Et comme il ne lit pas du tout le français, bon, il se demandait si c'était bien ou pas. Et là, il y a eu confirmation que ça allait, que les lecteurs français étaient contents. Et moi, c'était mon jour de gloire, en tant que traducteur.
Je trouve les réponses aux questions en détail. Il y a une satisfaction vraiment très particulière, c'est ce qui s'est passé avec les éditeurs. Donc, ils font Resituer Quantel, c'est une auteure américaine essentiellement de nouvelles fantastiques qui a été publiée en France, elle a été traduite dans les années 90 essentiellement. Ce qui se passe, c'est qu'elle a été traduite par un éditeur en particulier qui s'appelle Alain Dorelio. Et elle a été traduite jusqu'à sa mort et ensuite personne n'a vraiment pris pour lui. Ce qui fait que pendant 10 ans, elle n'a pas été traduite du tout en France. Et moi, ça a été un tel choc quand j'ai découvert ses textes que je pense qu'elle a beaucoup, qu'elle a énormément influencé mon écriture. Donc déjà, je lui avais dédié un de mes livres, enfin, il y a un rapport très fort à ses textes. Et j'ai une énorme satisfaction du jour où on m'a donné cette occasion de faire traduire un auteur de mon choix, qui donc a été Lisa. Je l'ai vécu un peu comme un retour d'ascenseur, c'est à un moment donné, quelqu'un qui avait tellement marqué ma vie, puisque d'une certaine manière, j'écris ce que j'écris en grande partie grâce à elle, d'avoir à un moment donné l'occasion de lui rendre ce petit service de la remettre un petit peu en avant en France. Et le livre a eu, alors c'est pas un gros succès, mais il y a eu du bouche à oreille autour de ce livre. Et pas mal de gens qui ne la connaissaient pas du tout ont redécouvert son nom, se sont intéressés à son travail. Et la grosse satisfaction que j'ai découverte après coup, c'est quand on l'a fait venir pour une dédicace. Elle m'a expliqué que dans les années 90, on ne faisait pas autant se déplacer les auteurs en France pour les dédicaces. Elle n'avait jamais signé en France. Et ce jour-là, notamment, elle a rencontré son ancienne traductrice qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et j'adore cette idée qu'à un moment donné, d'avoir donné une petite impulsion qui font qu'elle a été lue par de nouvelles personnes et qu'il s'est passé des choses à partir de là. Ça, c'est vraiment quelque chose où je me dis comment si j'ai fait une bonne chose dans ma carrière de traductrice, j'ai fait ça.
Alors, quand vous êtes dans la bouquin, dans de la traduction, est-ce que traduire l'auteur et lire, vous allez liser l'auteur de manière très longue, très profonde, est-ce que ça vous change? Parce que par exemple, David Camus, qui a traduit Lovecraft, il disait que c'est plein de cauchemars, c'est pas du tout Lovecraft.
Est-ce que ça vous change? Pas forcément dit comme ça, ça nous apprend. On développe un lien qui est assez particulier. Moi, j'ai un lien avec les auteurs que je traduis qui n'est pas celui qu'on a ni au. À ce qu'on lit en tant que simple lecteur, ni même à ce qu'on écrit en tant qu'auteur. Et on a un lien vraiment, enfin, quand on aime le livre en tout cas, un attachement très très particulier. Et moi je suis toujours extrêmement émue quand je rencontre un auteur que j'ai déjà traduit. Parce que j'ai l'impression de savoir des choses sur lui, d'avoir tissé un lien à travers le texte avant même de le rencontrer. Alors parfois il se passe une rencontre et parfois non, mais c'est toujours, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant comme ça. Et on passe. C'est quelqu'un avec qui on passe des mois de sa vie, en fait, en quelque sorte. Alors, simplement à travers ses livres, mais on tisse un lien vraiment très fort, très particulier.
Patrice.
Patrick.
Désolé,
Patrick, c'est malade.
Patrick, c'est malade.
Moi, je n'ai tissé aucun lien. Je suis désolé. Avec Terry Pratchett, évidemment, j'ai une communion d'esprit avec lui. Enfin, moi avec lui, lui il me connaissait beaucoup moins, évidemment. Mais c'est vrai que je lorsque je traduisais, parce que je vais encore avoir quelqu'un à traduire de lui prochainement, mais lorsque je traduis ces bouquins, je sens tout de suite ce qu'il va dire, peut-être dans le paragraphe suivant, ça, je le devine, parce que je l'ai tellement pratiqué que, effectivement, de ce côté-là, j'ai un lien avec lui, mais c'est à peu près tout. J'ai pas de cauchemar de nuit. Mais en revanche, j'en ai eu à propos des oiseaux de Jean-Jacques Dupont, parce que là, je rêvais d'oiseaux la nuit, et ça me perturbait énormément. Oui, tu voulais.
Est-ce que tu fais des jeux de mots la nuit?
Ça m'est arrivé, oui, de me réveiller parce que j'ai retrouvé une blague tout seul dans mon rêve. Oui, bon, c'est une blague qui était nulle, hein, mais.
Hein? Est-ce qu'elle marchait au réveil?
Oui, je m'en suis souvenu, je peux même la raconter. C'est pas mal comme tout. J'étais avec ma femme dans ma voiture dans un paysage de neige, il y avait une pente comme ça, et je vois arriver un skieur, et je dis à ma femme, attention, il y a un skieur qui fronce sur nous. Et ça m'a fait rire, et je me suis réveillé. Ouais. C'est bête, hein? Donc bon, mais c'est vrai qu'on peut trouver des endormants, on peut trouver des genoux, la preuve. Et je suis musicien, il m'est arrivé de composer en dormant. Bon, le problème, après, c'est de se souvenir de toutes les notes avant le réveil, mais ça m'est arrivé régulièrement.
Alors, on va peut-être passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions pour votre lecteur? Vas-y. Oui, donc, des questions.
On a couvert le sujet.
Non, moi je suis incapable d'écrire une ligne. Non, je suis très très mauvais. Très mauvais, j'ai jamais essayé. Non, mais je sais, je n'arriverai pas. La page blanche, ça m'effraie au plus haut point. J'aime bien travailler effectivement sur un texte déjà existant. Le traducteur, il travaille, comme je le disais, sur un matériau déjà existant. Il y a des contraintes. Et j'aime bien travailler avec des contraintes, en fait. Et d'ailleurs, les contraintes sont très importantes. Hein. Ça développe l'imagination, obligé de trouver des astuces et plein de choses. J'aimerais pas être archi libre. Et dans Project, les contraintes sont nombreuses. Donc c'est bon pour la tête. Mais non, je suis interdit d'écrire.
J'aurais bien réponse à ça, mais les seules quatre figures que vous m'arrivez de dire, je pourrais faire mieux, c'est que le livre était vraiment bon.
Ah, oui.
Je me souviens d'un cas en particulier, je me suis marché les cheveux en disant c'est pas possible. Mais en règle générale, je suis plus être en admiration vraiment de ce que j'ai sous les yeux, et plus dans un cas de figure où je stresse en disant mais comment je peux être à la hauteur de ce texte. Comment, alors après l'expérience, comment trouver que c'est un auteur que j'ai déjà traduit, je m'en suis déjà sorti. Mais c'est plus ça, c'est. Non, je vois pas tellement un cas de figure à part que le bouquin vraiment très mauvais qu'on puisse. En plus, je traduis souvent des auteurs qui sont très différents de ce que j'écris. Il y a eu très très peu de cas où ça se recoupait, et à ce moment-là, la ligne, je suis en admiration des techniques parce que je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, je ne me verrais pas dire non, je suis capable de faire mieux que ça. Sauf si vraiment c'est très bien.
Alors, je m'intéresse aussi concernant les auteurs. Est-ce qu'ils sont très inquiets de la traduction qu'ils peuvent avoir? Parce que c'est bien quand on ne connaît pas les langues, de savoir si son œuvre est bien pour la trouver. Quel est le rapport que vous avez avec eux? Est-ce que c'est juste un contrat? Est-ce que l'équivalent de vue? Ou est-ce qu'on va avoir quelques contacts? Elle va vous suggérer à un moment donné de faire contacter l'auteur, de savoir où il va en venir, où est-ce qu'il peut aller, est-ce que vous avez des choses? Quels sont les rapports avec l'auteur?
Moi j'ai été assez souvent en contact avec l'auteur directement, pas tous, mais en grande partie. Dans certains cas, on a un assistant qui s'occupe de centraliser notamment les questions et qui est une encyclopédie. Je me demande quel regroupe ce terme-là, il me sort limite les articles. C'est extrêmement. J'allais dire, c'est un peu une machine, il n'y a pas de ça. La plupart sont pas tellement, je les ai jamais sentis inquiets. Je les ai sentis plus contents quand une question. Laisser penser qu'on avait bien lu le texte, qu'on avait perçu des subtilités, qu'on essayait bien. J'ai eu plusieurs fois des retours d'auteurs qui me disaient que telle ou telle question les avait un peu rassurés parce qu'ils sentaient qu'il y avait eu un vrai regard sur le texte. Après, je ne sais pas, surtout ceux qui sont traduits dans beaucoup de pays, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont inquiets. Donc. Alors après, c'est beaucoup hors sujet. Pour avoir eu l'occasion d'être traduit plusieurs fois en anglais, sur des nouvelles, en fait, des textes courts. On a fait vérifier les textes et j'ai eu un regard critique à apporter. Mais à la limite, j'aurais préféré ne pas voir. C'est tétanisant de lire un texte et de ne pas être sûr. Est-ce que c'est ce que j'ai voulu dire? Est-ce que je comprends bien la nuance en anglais? Est-ce que ceci. C'est presque un choix trop important. Moi, je préfère que. À la limite, je préfère ne pas voir. Je ne sais pas si eux réagissent comme ça, mais. En plus, ils n'ont pas forcément le temps de relire ou de. Mais par moments, je sens qu'ils sont. Ils sont contents quand ils ont l'impression que le texte est en bonheur.
Oui, moi j'ai régulièrement eu des contacts avec les auteurs. J'aime bien poser des questions aux auteurs que je traduis. J'ai toujours été bien accueilli par les auteurs, sauf par Terry Pratchett, qui visiblement n'a jamais compris, peut-être à la fin quand même, au bout de certaines années, mais au début, il ne comprenait pas pourquoi. Je lui posais des questions. Pour lui, c'était très facile de traduire. Il suffisait de dire la même chose que lui, mais en français. Voilà. C'était trop compliqué. Et c'est pour le premier roman que j'ai traduit de lui, je lui ai posé des questions et c'est la première chose qu'il m'a dit. Mais c'est quand même pas si difficile que ça de traduire. Il suffit de mettre la même chose.
Ah bon, d'accord.
Et j'ai continué à lui poser des questions et à chaque fois, bon, il m'a jamais répondu de façon. Très enthousiaste, hein, visiblement, je l'emmerdais au bon point. Et tout à l'heure, je disais que ça l'a rassuré quand j'ai signé auprès de lui, et j'ai ajouté qu'il y avait eu quelques problèmes avant, et effectivement, c'est ce genre de problème que j'ai eu, parce que visiblement, Il a été traduit dans, je crois, une quarantaine de langues. Je devais être l'un des rares, sinon le seul, à lui poser des questions. Donc, pour lui, si je posais des questions, c'est que j'étais mauvais, quoi. Évidemment, les autres n'en posaient pas. Les bons n'en posaient pas, voilà. Et là, il se trompait, parce que je ne sais plus pour quel roman... j'ai oublié quel roman c'était, mais enfin bref, j'avais la version allemande. Et dans ce roman, il y avait un monde, je ne sais plus quelconque, sur lequel il y avait un dieu. Les habitants étaient très malheureux parce qu'ils n'avaient pas de... Alors, un mot que je ne connaissais pas en anglais. J'ai cherché dans tous les sens. Tout ça. Sur ce monde, il n'y avait pas de... Bref. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cherché à droite à gauche, j'ai demandé à des copains anglais, parce qu'à chaque fois, j'ai des copains anglais, américains, et que je vois certaines difficultés avec eux, avant de m'adresser à l'auteur. L'auteur, c'est toujours en dernier recours. Et mes copains, non, ah non, hein, non, je vois pas ce que c'est, tout ça. Et je suis tombé sur la version allemande. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'a fait mon frère allemand? Et lui, il avait mis, il n'y avait pas de cafard, de cancrelat. Régional, anglais, qui signifie cancrelat, mais j'étais pas sûr. Donc j'ai posé la question à Terry Pratchett. Et Terry Pratchett me répond: comment voulez-vous que je le sache, parce qu'il n'y en a pas? Voilà. Alors moi, à ses yeux, enfin il m'a pris pour un imbécile, visiblement, alors que traducteur allemand, lui, avait tout compris, bien sûr, à ses yeux, oui. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça, c'était un peu embêtant pour moi, parce que dans une interview en Angleterre, on m'a posé des questions sur les traducteurs. Est-ce que vous avez des contacts avec les traducteurs? Comment vous entendez-vous avec eux? Et il avait dit, oh ben les traducteurs ça va, à part le français, qui alors, il a posé des questions. Voilà. Et si je me souviens bien, parce que j'avais lu l'article, il avait mis des aides pour les TH et tout ça, mais il avait dû répondre avec un accent français épouvantable, quoi, histoire de se moquer. Ouais, et donc, ça explique pourquoi j'étais très content de signer à côté de lui.
Prenez ma tranche.
Oh, à Descartes, ouais, on a même discuté. Je me souviens que lorsqu'il est venu en 2003, venait de sortir à l'Atalante le grand format, le dernier héros. Et pour faire sa dédicace, il m'a demandé quelle était la phrase, la dernière phrase en français du roman. En anglais, la dernière phrase voulait dire le bar des morts reste sa chanson. Et en français, c'était beaucoup plus long. Longtemps après que le bard a disparu, sa chanson court encore dans les rues. Alors il me regarde et me dit, mais tout ça pour dire juste quelques mots? Et à ce moment-là, l'éditeur s'est approché parce qu'il voyait un peu mon ennui. Et l'éditeur m'a dit, c'est une citation d'un grand chanteur qui s'appelle Charles Trenet. C'est une citation de la chanson L'homme des poètes. Longtemps après que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues. Et ça correspondait pile et j'ai mis cette citation. Et du coup, il était vachement content. C'est une excellente idée. Alors, il a copié la phrase française et il signait avec cette phrase française la dédicace. Et moi, du coup, par feignantise, je signais avec la phrase anglaise. Et voilà. Je ne veux pas vous faire pleurer.
Et ensuite, je sais déjà par ici qu'il y aura un autre recueil de nouvelles de Terry Pratchett. Il y en a déjà un qui va sortir, qui est sorti d'ailleurs début octobre, qui s'appelle Fond d'écran. En même temps que les carnets de voyage de Madame Schex, qui se passe sur le disque monde, c'est des carnets de voyage en train. Ça sort là maintenant. Vous ne l'avez pas encore. Et puis donc après la couronne du berger, je voulais les poils du berger, mais ça va pas. Je crois que ça va pas passer. Après ça, donc il y aura un autre recueil de nouvelles, et puis des petites choses du disque monde encore, des petits bouquins qui soient géographiques, soit enfin des choses comme ça, pendant un temps.
Moi, je suis partie pour
une
vanne de mon interprétation. Dans ce moment, j'en enchaîne plusieurs, qui sont à chaque fois des suites de séries que j'ai commencées. Là, je traduis un livre qui est la suite d'un roman que j'ai perdu, qui s'appelle Cœur d'Esprit, qui était le premier livre trilogique. Finaliste de deuxième. Et il est en train de terminer d'écrire le troisième, donc je pense que je vais finir d'en traduire. Et juste après ça, j'enchaîne avec un gros morceau qui est la suite, qui est aussi un deuxième volume d'une série qui a été commencée par La Voix des Rois, qui est paru récemment. Et La Voix des Rois, ça fait, en anglais, ça faisait 1000 pages. La suite est légèrement plus grosse que moi, donc ça va m'occuper pour un petit moment. Et au-delà, je ne sais pas, parce que j'ai un peu de mal à projeter au-delà de ça.
Traducteur pour les bouquins, etc.
C'est-à-dire, je suis pas sûre de.
Sur Internet, il y a la traduction collective, et que chacun se prend un chapitre, et puis on essaye après de coordonner, ou d'apporter chacun ce qu'il a
développé. Je dirais que ça dépend vraiment du contexte dans lequel c'est fait. Voilà, comme ça, j'associe ça à des choses comme les traductions, les sous-titres pour les séries télé, ou des choses comme ça, quand on veut que ça aille vite. Je sais qu'il y avait aussi, il n'y avait pas eu un groupe de traducteurs qui avait traduit un Harry Potter en qui sorte, ça avait été fait à la chaîne, etc.
Il y avait aussi quelques lettres qui avaient été traduites par un traducteur.
D'accord.
Pour les
d'accord. Je sais pas, moi j'en ai une image comme ça de quelque chose, on essaie de produire quelque chose le plus rapidement possible. Pas forcément des choses très littéraires, j'en sais rien, c'est l'idée fausse, mais je suis assez perplexe devant ça, mais il y a certainement des projets auxquels ça se prête. J'en sais rien. Je pense que déjà c'est difficile d'être déjà traducteur sur une série parce qu'il faut garder une idée de temps, il faut garder certains termes. C'est déjà très très difficile d'arriver à faire quelque chose d'harmoniser à plusieurs personnes. Donc du coup, moi je suis un peu sceptique sur le principe, mais vraiment sur le principe, j'ai pas regardé de près ce qui se fait et comment ça peut fonctionner. Donc là, je suis pas trop dans mon domaine.
Non, j'ai pas mieux. Plus de traducteurs, c'est vrai que moi, je ne crois pas trop sur la qualité du travail. Sur le plan de la vitesse, c'est sûr. Bon, cela dit, il y a eu des exemples, non pas de plus de traducteurs, mais de traductions faites à deux. Je pense en particulier à Boris Vian et sa femme Michel.
Bonjour à tous. Suite à un désistement sur le stand RHR, le jeu de nature. Nous avons deux places pour le jeu Dr. House qui se sont libérées. Donc deux places pour le Dr. House à 20h30. Voyez au stand RHR. Merci.
Merci. Oui, Boris Vian et sa femme Michel ont traduit des romans policiers de Raymond Chandler, des choses comme ça. En série noire. Et je pense que Michel Vian était meilleur en anglais que Boris Vian, donc elle allait faire le premier jet. Et Boris Vian, lui, mettait ça en français après avec toute sa patte. D'ailleurs, bon, il gênait pas pour rallonger les chapitres, en raccourcir, etc. Mais certains auteurs, que Peter Chenet, je ne sais pas si vous en avez vu, c'est pas très très bien écrit, mais en français, par Boris Vian, c'est pas mal du tout. Par nombre de lignes dans la page, par nombre de pages, et ensuite on divise par 1500 parce qu'on est payé 1500 signes, et on multiplie par le tarif en vigueur dans la maison d'édition, c'est 1500 signes. Voilà. Alors, après ça, on a un pourcentage. Enfin, après ça. C'est-à-dire que tant que. Ça dépend des maisons d'édition, c'est 1% ou 2%. La Talente, c'est 2%, c'est pas mal. Et sur chaque bouquin vendu, le traducteur a 2%. Et tant que ce pourcentage, parce qu'il a gagné avec ces 2%, ne dépasse pas son avaloir, mais donc il est touché 10 000 euros d'avaloir, il touche 2% par bouquin. Un bouquin a, mettons, à 20 euros, ça fait qu'il faut avoir beaucoup, en tout cas pour dépasser les 10 000 euros d'avaloir. Mais s'il dépasse, ces 10 000 euros touchent 2% sur les premiers suivants.
Ce qui n'arrive pas si souvent.
Ouais, c'est, avec Pratchett, ça, oui. Ça arrive pour les premiers que j'ai traduit, justement. Mais c'est vrai que ça arrive très rarement. En général, on ne dépasse pas la valeur. Parce que oui. Ils font vendre au moins 20 000 ou 25 000 pour dépasser la valeur.
J'ai eu un cas de figure. J'ai un cas de figure un peu
particulier,
enfin, très particulier, parce que c'est un petit éditeur. C'est donc Histopia qui, pour qui j'ai traduit les Apple, dont je parlais tout à l'heure. C'est plutôt quelque chose d'une petite maison associative, c'est pas un fonctionnement d'éditeur classique. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils ne peuvent pas nous donner la valeur. Par contre, ils m'ont donné un très gros pourcentage. Je ne sais plus si c'est. Je dis combien, c'est 20%, je crois que c'est moins que ça. Enfin, j'ai un avoir vraiment énorme, un pourcentage énorme par rapport à d'habitude. Ce qui fait que tous les ans, j'ai des sommes qui tombent. Alors, c'est pas monstrueux, mais c'est quand même beaucoup plus conséquent que j'aurais pu m'attendre si m'avait versé un avoir pour écrire. Mais c'est un cas de figure très particulier. Et eux, ils ont vraiment insisté à ce que le traducteur ait une part plus grosse que ce qu'il touche d'habitude. Par contre, effectivement, ça veut dire que pendant tout le temps que j'ai passé à traduire ce livre, c'était du temps à perdre, entre guillemets, puisque je n'étais pas payée pour ce travail-là. Donc il ne fallait pas que je passe trop de temps non plus, je faisais ça en alternance avec une autre traduction. Parce qu'il faut penser à ça pendant. La valeur sert aussi à ça, de nous faire vivre pendant que.